Delroy, nous allons faire un film fantastique.
Depuis Garbo, les actrices ont gardé ce mystère, ont gardé quelque chose de vraiment à elles, une personnalité.
Je crois que c'est pour ça que des milliers de gens aiment le cinéma, pour s'oublier eux-mêmes dans l'émotion due à la contemplation d'un groupe.
Zone B, Utopia. Alors si vous n'avez pas vu The Lighthouse de Robert Eggers et Institut Benjamin Tate des frères Case, précipitez-vous à Utopia. Il s'agit de la dernière semaine d'exploitation en salle pour ces remarquables films. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre film qui va disparaître, mais dans 15 jours, c'est It Must Be Heaven de l'Israélien Eli Souleyman. Derrière ce titre ironique de Quel paradis veut évoquer Eli Souleyman de retour derrière la caméra après 10 ans d'absence si l'on accepte un segment du film à sketch 7 jours à la Havane, sans doute de manière hypothétique des terres d'accueil recherchées par le cinéaste. Après Intervention divine et le temps qu'il nous reste, It Must Be Heaven clôt temporairement un triptyque sur l'état du monde contemporain perçu à travers le regard singulier et décalé du double d'Eli Souleyman qui interprète là son propre rôle. Le Souleyman du film, c'est à la fois lui et un autre, un personnage de fiction emprunté au réel, le plus intime de l'auteur puisqu'il s'agit de lui-même, un peu comme Charlot chez Chaplin ou Hulot chez Tati, des références écrasantes mais qui trouvent une résonance juste à la vision de ce très beau film. Elia ressemble par ailleurs étrangement à Buster Keaton, silhouette un peu perdue, au regard mélancolique, observant ses compatriotes, tel un entomologiste qui étudierait les insectes, avec une élégance détachée et triste. Alors après un prologue mystérieux, presque hors propos, critique féroce de la religion, le film débute en montrant Elia au quotidien dans sa maison, vaquant à ses occupations journalières répétitives. Lassé par sa terre natale, il fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle patrie, un peu comme le héros de Synonyme de Nadav Lapid, mais dans un contexte différent. Il débarque dans une France dépeuplée, vidée de sa substance et de son humanité, représentée symboliquement parce qu'elle représente finalement de moins reluisant. Mais lorsqu'il filme des professionnels de la santé venant en aide à un SDF, il n'enregistre que la part mécanique aliénée de la tâche. Il croque des scénettes surréalistes, chorégraphiées à la perfection, brossant un portrait déprimant et cruel de nos sociétés égoïstes et libérales, encadrées par des lois absurdes, une répression ridicule et un culte de l'individualisme exacerbé, à l'image de cette séquence drôle et terrifiante où les gens guettent dans un parc la chaise à subtiliser à l'autre pour son confort personnel. Ou encore ce magnifique ballet de flic poursuivant un trafiquant déposant un bouquet de fleurs sous une voiture. Alors sans fil conducteur particulier, égrené d'idées graphiques parfois sidérantes, rappelant le trait affûté de certains dessinateurs de BD, comme Marc-Antoine Mathieu, Elia Souleyman se fait le témoin de notre époque désolante, même s'il ne renonce pas à l'humanité. Alors même constat quand le réalisateur s'exile à New York, il enchaîne une série de mini-sketchs cinglants et drôles, parmi lesquels on retiendra surtout le moment où Souleyman rêve d'une ville où tous les habitants, y compris les enfants, portent une arme, poussant jusqu'au paroxysme la dimension cauchemardesque d'une situation folle pourtant pas très loin de la réalité. Alors à travers son périple douloureux, sorte de carnet de voyage tragico-comique, Elia Souleyman interroge notre place de citoyen du monde et dresse un constat sombre de la situation actuelle. Alors quelques éclats humanistes ouvrent heureusement une bulle d'oxygène dans l'atmosphère asphyxiante de nos sociétés ultra-libérales, en l'occurrence ici les États-Unis et la France. Alors le regard lucide du cinéaste passe par de vraies visions de cinéma sublimées par un sens des couleurs et du cadre, de l'utilisation des décors et des corps aussi dans ce même cadre. Il y a un vrai travail de mise en scène dans l'élaboration de cette succession de vignettes burlesques qui reprennent souvent les motifs esthétiques du cinéma de Tati, à commencer par l'importance du son et la quasi-absence de dialogue. On est surtout bluffé par cet esprit de synthèse qui en un plan parvient à en dire 10 fois plus que certains en 1h30. It Must Be Heaven ressemble à un enchaînement d'aphorismes visuels, un peu comme si Sioran avait troqué sa plume pour une caméra, mais un Sioran moins nihiliste, laissant traîner quelques lueurs d'espoir esquissées par un épilogue émouvant, où là, le réalisateur, sirotant un verre dans une boîte de nuit, contemple une jeunesse palestinienne en train de s'éclater. Alors tout n'est pas perdu, se dit-on, pour ce pays opprimé depuis de nombreuses années. Laissons le mot de la fin à cette phrase essentielle qui résonne encore après la projection. Tout le monde boit pour oublier, vous, les Palestiniens, vous buvez pour vous souvenir. C'est aussi la force de ce film de parler de la situation politique du pays sans jamais évoquer le conflit israélo-palestinien de façon directe, préférant la mise en abîme, les métaphores et autres allégories burlesques. Le film passe donc au cinéma Utopia encore pour 2 semaines.
Kinderoy, nous allons faire un film fantastique.
Garbeau, les actrices ont gardé ce mystère, ont gardé quelque chose de vraiment à elles, une personnalité.
Je crois que c'est pour ça que des milliers de gens aiment le cinéma, pour s'oublier eux-mêmes dans l'émotion due à la contemplation d'un groupe.